Bonjour à toutes et à tous. Alors que les actes d'antisémitisme sont de plus en plus nombreux et graves dernièrement en France, je voudrais revenir sur un article publié par Nicolas Beauve en novembre 2018 dans Les Inrecuptibles, intitulé « Pourquoi l'antisémitisme explose en France ?». Alors que le Premier ministre, Édouard Philippe, avait fait part, le 9 novembre, des derniers chiffres inquiétants de l'antisémitisme en France, Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques, s'expliquait sur un phénomène de fond qui imprègne réellement la société française. Le 9 novembre au matin, donc, une annonce officielle du Premier ministre Édouard Philippe était publiée sur sa page Facebook. Sans attendre la fin de l'année et endossant une responsabilité habituellement réservée au ministre de l'Intérieur, ce qui accentue la gravité, il avait tenu à annoncer les chiffres néfastes de l'antisémitisme en France. Les actes commis contre des juifs, en raison de leur confession, ont augmenté en effet de 69%. Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, avait précisé à l'AFP qu'un tiers de ces cas étaient des actions antisémites, agressions, dégradations de biens, voire même homicides. Le Premier ministre avait assuré que le gouvernement ne resterait pas indifférent. Au cours des seuls 9 premiers mois de 2018, près de 385 agressions, physiques et verbales, avaient donné lieu à des plaintes ou des mains courantes. Ce nombre est d'autant plus préoccupant que le 7 novembre, un reportage d'Euronews soulignait que de moins en moins de juifs prenaient le temps de porter plainte, justement pour les actions les moins violentes, comme les insultes et les tags, et parce qu'ils ont de moins en moins confiance dans les autorités pour intervenir ou donner suite à ces plaintes. D'après Francis Khalifa, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, ces chiffres traduisent la permanence et le développement d'un antisémitisme du quotidien, une forme de banalisation de la haine. Dans ce contexte, le Premier ministre avait fait l'annonce d'un certain nombre de mesures. Un dispositif de pré-plainte en ligne allait être mis en place pour faciliter les démarches des victimes. Une équipe allait être mise à disposition au ministère de l'Éducation nationale pour intervenir dans les établissements scolaires. Une équipe qui serait renforcée par un réseau d'enquêteurs et de magistrats formés à la lutte contre les actes haineux. En plus, le Premier ministre a décidé de remettre tous les ans un prix annuel Ilan Halimi du nom du jeune homme séquestré et massacré par le gang des barbares. Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques et chercheur associé à l'IRIS, revient sur ces chiffres préoccupants. Interrogé justement sur le fait de savoir qui, dans l'extrême droite française, tient ouvertement un discours antisémite aujourd'hui, Jean-Yves Camus répond qu'il est d'abord nécessaire d'apporter une précision fondamentale. En France, contrairement à ce qui est autorisé dans les pays anglo-saxons, nous ne disposons pas de statistiques sur l'origine ou l'appartenance nationalitaire ou religieuse des auteurs d'actes antisémites ou racistes. Nous nous trouvons ainsi face à un paradoxe. Beaucoup de commentateurs, d'hommes et de femmes politiques, aujourd'hui, constatent, lorsque les chiffres sont annoncés, que l'antisémitisme est en hausse. Mais à qui peut-on attribuer cette hausse ? Tout le monde a plus ou moins en tête qu'elle ne serait pas seulement, et même pas principalement, le fait de l'extrême droite, mais également d'individus qui se réclament d'une forme d'islamisme ou d'identité musulmane, ou bien encore d'un engagement dévoyé en faveur de la cause palestinienne. C'est de plus en plus fréquemment ce qui est annoncé, sans qu'il soit possible de le prouver, faute de statistiques ethniques. Cette situation est, à son avis, extrêmement pernicieuse. Sa conséquence directe est par exemple que Marine Le Pen a immédiatement tweeté pour dire que le Premier ministre Édouard Philippe omettait de préciser dans sa page Facebook l'origine des auteurs. Et selon lui et selon Camus, cette ambiguïté est utilisée de plus en plus par l'extrême droite. C'est une ambiguïté qui découle de notre législation mais qui néanmoins contribue à rendre les constats et donc les ripostes extrêmement difficiles. On assiste à une augmentation des chiffres bruts de menaces et d'actes antisémites, mais il n'existe aucun détail fiable concernant ces données. On devrait pouvoir mesurer exactement l'orientation idéologique des auteurs de ces actes. Quant à savoir s'il y a encore dans l'entourage du Rassemblement national des individus au passé antisémite, il répond qu'il faut prendre les choses autrement. Certains dans ces milieux ont effectivement, par le passé, été antisémites. mais ce sont des individualités. Le parti lui-même n'utilise pas l'antisémitisme comme fond de commerce, comme arme politique. Qui, aujourd'hui, dans l'extrême droite française, fait la promotion de l'antisémitisme? Ce sont des groupuscules situés à la droite du Rassemblement national. Commençons par exemple par nous rendre dans un kiosque à journaux. Toutes les semaines, il est possible d'y acheter Rivarol, dont la semaine dernière, par exemple, le numéro spécial était un hommage à Robert Faurisson. Rivarol représente une droite ultra, extrêmement minoritaire. On peut même considérer qu'il représente l'extrême de l'extrême droite ultra minoritaire. Mais c'est une question de principe. Alors que des titres de presse disparaissent régulièrement ces dernières années, faute de bailleurs de fonds, Rivarol est aujourd'hui présent en tant qu'hebdomadaire qui paraît sans interruption depuis 1951 et qui, malgré une maquette peu travaillée et un papier de piètre qualité, a, effectivement, les moyens financiers de continuer à paraître. Les articles qu'on peut y lire fraient avec les limites de la loi. Des condamnations sont d'ailleurs régulièrement prononcées. De plus, sa apparition signifie aussi qu'un diffuseur accepte de prendre la responsabilité de mettre en kiosque une revue qui accorde une place prépondérante à la dénonciation d'un complot judéo-maçonnique et à la négation de la Shoah, qui est interdite en France par la loi Guesso. Force est de constater qu'on peut rendre hommage au principal théoricien du négationnisme sans pour autant tomber sur le coup de la loi, du moins pour l'instant. Et c'est problématique. Évidemment, la fraction politique que Rivarol représente est infiniment minoritaire. Mais s'il est décidé de véritablement mener la politique que préconise le Premier ministre, celle de la tolérance zéro, il faut l'appliquer entièrement. Il n'est pas possible d'être tolérant à l'égard d'antisémites sous prétexte qu'ils sont minoritaires. Le groupe qui a été démantelé récemment alors qu'il entreprenait, paraît-il, d'attenter à la vie du président Macron, représente une tendance ultra-minoritaire. Il n'empêche que ses membres ont été arrêtés à juste titre. La question ne se pose donc pas en termes de quantité, mais de visibilité et de principe. Concernant une autre question portant sur les liens existants avec les réseaux internet complotistes, Jean-Yves Camus affirme que nous arrivons maintenant au cœur du sujet. Quand vous posez la question de savoir qui est antisémite dans l'extrême droite aujourd'hui, eh bien, principalement la nébuleuse complotiste, soralienne et dieudoniste qui propage les préjugés antisémites. La visibilité de ces sites est considérable. À partir d'un certain point, la question n'est plus de savoir d'où viennent ces militants à proprement parler, mais quelles idées ils adoptent. Dieudonné n'était pas un homme d'extrême droite. Il a commencé avec un engagement antiraciste, puis était candidat contre le Front National à Dreux. Il est néanmoins intéressant d'observer dans quel milieu il évolue aujourd'hui. Il s'agit de milieux objectivement d'extrême droite, véhiculant des idées également d'extrême droite. Et la même chose vaut pour Alain Soral. Il dit avoir été membre du Parti communiste, ce que le parti conteste, avant de passer par le FN de Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, bien que n'ayant pas le parcours typique d'un homme d'extrême droite, il anime un site, Égalité et Réconciliation, duquel transpire l'idéologie d'extrême droite, sans même prendre en compte les théories conspirationnistes. Et concernant le négationnisme, dès ses origines, il a émané d'individus provenant de l'ultra-gauche. C'était le cas de Paul Racinié et d'autres qui, à un moment donné, ont évolué politiquement. Racinié a été anarchiste, puis socialiste révolutionnaire. Pourtant, à la fin de son parcours, il écrivait dans les colonnes de Rivarol. Il a fait lui-même la jonction entre l'extrême droite et l'ultra-gauche, mais au terme d'une mutation idéologique. Racinié, résistant authentique, déporté au camp de Dora Mittelbau, met en cause dans ses premiers écrits les mécanismes de l'extermination et la mainmise des résistants communistes emprisonnés sur l'ensemble de la population des camps. Et progressivement, son discours s'est orienté vers la négation de l'extermination des Juifs d'Europe. Or, la négation reste très majoritairement d'extrême droite parce qu'elle tend à exonérer le nazisme de ses crimes. Robert Faurisson, lui aussi, se réfugiera derrière une posture d'homme apolitique et universitaire jusqu'à ce que Valérie Higounet démontre dans sa biographie de Faurisson comment il avait basculé. Très jeune, il avait assisté au procès d'un chef milicien du nom de Pierre Gallet. C'est alors qu'il avait commencé à contester l'épuration et la justice mise en place à l'encontre de ceux qui avaient commis des crimes pendant l'occupation. Ce n'est peut-être pas un itinéraire d'extrême droite classique, il n'en est pas pour autant arrivé au négationnisme par un simple raisonnement académique. À partir des années 90, surtout, il a su se faire le réceptacle des idées antisionistes. Robert Faurisson est allé bien au-delà de l'antisionisme. Prenons sa fameuse déclaration sur Europe 1 en 1980. Il y présente un condensé de tous les stéréotypes de l'antisémitisme d'extrême droite. Que dit-il exactement ? Non seulement que la Shoah n'a pas existé, mais encore est une escroquerie dont les principales victimes sont l'État d'Israël et le sionisme international, et accessoirement le peuple palestinien et le peuple allemand. On ne connaît aucun antisionisme doté d'une colonne vertébrale idéologique de gauche qui porte ce discours. Il n'est ni marxiste, ni révolutionnaire, ni libertaire. Selon Camus, la ligne de fracture entre antisionisme et antisémitisme est simple. Elle se trouve dans l'acceptation ou non de l'existence de l'État d'Israël. Du moment où on nie le droit d'existence de l'État d'Israël, on est au-delà de l'antisionisme. Il est en effet tout à fait possible d'émettre toutes sortes de critiques à l'encontre d'Israël. Il est même possible d'être intellectuellement antisioniste en considérant que ce projet n'était pas le meilleur pour les Juifs ou qu'il devrait rester vivre en diaspora. Il s'agit là d'un débat intellectuel légitime, mais pas la négation du droit d'Israël exister et des Juifs qui souhaitent d'aller y vivre. Interrogé ensuite sur la place qu'occupe politiquement un mouvement tel que celui des indigènes de la République, qui a soutenu Dieudonné au nom de la primauté du combat antiraciste et anticolonialiste, sur celui entre autres contre l'antisémitisme, Camus répond que ce sont des propos tenus par des gens qui se réclament de la gauche radicale, mais avant tout qui reposent sur une vision de la République qui lui paraît totalement inacceptable. D'abord parce qu'elle est fondée non pas sur l'histoire, mais sur la culpabilisation, qui sont deux choses très différentes. Il est nécessaire d'écrire l'histoire de la guerre d'Algérie, de la traite négrière, de la colonisation. Des quantités d'historiens sérieux le font. Il subsiste cependant une différence fondamentale entre écrire l'histoire et lever les zones d'ombre sur des faits qui n'ont jamais été évoqués, sur des documents qui n'ont jamais été déclassifiés, et tenir un discours consistant à culpabiliser une partie de la population au motif qu'elle serait, en raison de son origine, responsable de ce qu'ont commis ses ancêtres. Ensuite, au sujet de la hausse récente des actes antisémites, le directeur de l'Observatoire des radicalités politiques explique qu'il y a effectivement des pics d'actes antisémites au moment des confrontations armées incluant Israël au Moyen-Orient. Ce fut le cas en 2009 avec l'opération Plomb durci, en 2014 plus récemment et déjà en 2006 au moment de la confrontation avec le Hezbollah. Pour autant, même lorsqu'il ne se passe rien, le niveau des actes antisémites en France reste incomparablement supérieur à ce qu'il était avant le déclenchement de la seconde intifada en septembre 2000. On entend en France un bruit de fond antisémite alimenté par 300 à 400 actes selon les années, au minimum, parfois le double. Ce nombre est 4 fois plus élevé qu'à la fin des années 90. Il n'est pas justifié de considérer que les événements du Moyen-Orient sont responsables de ce bruit de fond. Les statistiques prouvent même le contraire. Lors d'une confrontation militaire, c'est un fait, la courbe de ces actes grimpe en flèche. Mais regardons les principaux actes antisémites qui se sont produits ces dernières années. Lorsque le gang des barbares enlève et tue Ilan Halimi, que se passait-il au Moyen-Orient ? Rien. À quels événements militaires correspondent les assassinats de Sarah Halimi ou de Mireille Knoll au Moyen-Orient ? À rien. De même, en s'en tenant à cette explication des répercussions des conflits au Moyen-Orient, comment expliquer les inscriptions antisémites découvertes à la faculté de médecine récemment ? Que se passe-t-il en ce moment de particulier ? Une tribune parue dans Le Monde en mai 2018 rappelait que l'antisémitisme n'était pas que le fait de musulmans radicalisés. Parmi les autres clés d'explication, celle de la montée des populismes en Europe était avancée. Jean-Yves Camus indique à cet égard que les signataires de ces tribunes ont eu raison de faire cette mise au point. D'abord parce que l'antisémitisme d'extrême droite n'est pas mort, et qu'effectivement, derrière tel ou tel mouvement populiste en Europe, ce n'est pas le cas de tous mais de plusieurs, eh bien il y a des mouvements et un discours antisémite, au Parlement européen comme dans les parlements nationaux. En Grèce, par exemple, le journal d'Aube Dorée est vendu dans tous les kiosques d'Athènes et il est antisémite de la première à la dernière page. On citera aussi le Jobbik hongrois, le NPD allemand, attaquant en Bulgarie. Autant il est nécessaire de ne pas se voiler la face sur l'existence d'un nouvel antisémitisme, selon l'expression de Pierre-André Taguieff, qui a à voir soit avec les crispations identitaires d'une partie de la population musulmane, soit avec l'islam radical, autant il n'est pas possible d'expliquer du jour au lendemain que le vieil antisémitisme d'extrême droite a disparu. Ce serait une forme d'hémiplégie intellectuelle extrêmement nocive. Tous les populistes, d'ailleurs, ne sont pas antisémites. Monsieur Wilders aux Pays-Bas est éminemment philosémite et pro-israélien, ce qui ne le rend pas pour autant plus sympathique, ni en tant que juif, ni en tant que partisan de l'existence de l'État d'Israël. Il n'est pas sympathique à Monsieur Camus pour la simple raison qu'il développe et alimente une forme de racisme anti-musulman. Il tient des propos absurdes sur l'interdiction du Coran, l'arrêt des constructions de mosquées, etc. En France, l'antisémitisme tend historiquement à être présent au sein de la gauche française et il continue à y avoir des schémas intellectuels qui perdurent, qui associent les juifs au capitalisme, au capital transnational et donc aux pires excès de la globalisation et au poids de la finance. La finance remplace peu à peu l'industrie dans l'économie mondiale. Et les juifs continuent d'être soupçonnés de déloyauté. Ils ne seraient pas apparemment fidèles au pays dont ils sont citoyens, mais principalement à leurs intérêts communautaires et à Israël. Le parti du Labour britannique se débat actuellement dans une affaire particulièrement grave également. Il ne s'agit pas d'un responsable qui poste sur son compte une caricature qui peut être interprétée comme antisémite. Il s'agit véritablement de centaines de messages postés sur divers forums pendant une durée de temps assez longue, de sections qui refusent de voter des motions contre l'antisémitisme. Il s'agit là d'un véritable problème de fond. D'autre part, le discours contre les pouvoirs de l'argent et des élites internationales est communément prôné dans les discours de la gauche, mais l'antisémitisme n'y est pas clairement évoqué. Un travail reste cependant à faire en termes de pédagogie pour démonter les stéréotypes que vient dénoncer M. Camus, qui se trouve encore fréquemment dans une portion de l'électorat de la gauche radicale. Ils font démontrer d'abord que la communauté juive est un ensemble extrêmement hétérogène et qu'elle est composée de gens qui majoritairement ne se réclament pas de l'appartenance à une communauté organisée. Ils n'appartiennent à aucune association. Mais des fantasmes perdurent, c'est vrai. Le CRIF, par exemple, n'est pas une association à laquelle on peut appartenir à titre individuel. Il existe une association des amis du CRIF, mais elle est négligeable en termes de membres vis-à-vis du 500 000 de juifs en France. La majorité des juifs en France, d'ailleurs, n'appartiennent à aucune association constituée, ni ne participent à ce que d'autres ont appelé la communauté juive organisée. La communauté juive est socialement très diverse. On ne le rappellera jamais assez.